Alors, ce matin, j'aimerais que vous puissiez tourner dans vos Bibles l'épître de Paul à Philémon. C'est une très petite épître et elle se trouve juste avant Hébreux. Est-ce que tout le monde est là? Donc, on va rapidement ce matin faire un survol de cette courte épître, la lettre de Paul à Philémon. Et ce matin, le titre du message, c'est « Un modèle de courtoisie chrétienne ». Donc, on va apprendre un peu ce que c'est que de vivre ou de comment se conduire les uns avec les autres. Et vous allez voir que souvent, ce n'est pas toujours le cas. On a des tendances, malheureusement, charnelles, qui nous poussent des fois à nous conduire comme étant un peu semblables au monde. Et c'est ça qu'on veut que Paul nous démontre dans cette étude-là, c'est la façon dont il va parler à Philémon par rapport à une autre personne qui est Onésime. Et on va tous voir ça après ce mot de prière. Oui, Père éternel, nous voulons nous courber, Seigneur, devant toi ce matin. Et Père, on veut te remettre ce temps, ce court temps devant l'épître de Paul à Philémon. Une petite lettre que tu as jugée nécessaire, qu'elle fasse partie du Nouveau Testament. Et Père, que tu puisses nous enseigner ce matin. Vraiment, ta parole. Et qu'on puisse avoir des cœurs réceptifs et obéissants à ta parole. C'est vraiment important, Seigneur, de prendre au sérieux tout ce que tu nous dis et de te demander ton aide, Seigneur Dieu, parce que parfois c'est pas facile, il y a des situations où c'est très difficile. Alors, Père, nous te faisons confiance ce matin. Et puisses-tu nous accorder d'avoir des oreilles pour entendre, des yeux pour voir dans cette merveilleuse parole combien tu es bon, combien tu nous aimes et combien, Seigneur Dieu, on est plus que vainqueurs en toi par Jésus-Christ. Amen. Il y a un livre dans le Nouveau Testament qui est décrit comme un modèle de courtoisie chrétienne. La courtoisie, c'est pas toujours quelque chose qu'on gère avec aisance, surtout les impulsifs ou les sanguins. On a de la misère avec le fait d'être poli. Deuxièmement, ce livre-là, c'est une manifestation de l'amour chrétien. L'amour agapé. L'amour sans condition. L'amour que le Seigneur veut que le monde voit en nous. Parce qu'il dit, vous les reconnaîtrez. Vous reconnaîtrez qui? Nous, ses enfants. À l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Puis des fois, c'est compliqué. On ne dirait pas. Et troisièmement, c'est un monument de la conversion chrétienne. La parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée, il ne faut pas que ce soit de façon à brusquer, à faire peur, à éloigner les gens. Il faut que les gens qui entendent cette parole-là, qui vient de nous, mais nous sommes seulement les outils. La parole vient de Dieu. Il faut que cette parole-là soit annoncée avec beaucoup d'amour. Il faut aimer l'âme perdue. Il faut aimer cette personne-là au point de dire, je ne veux pas que tu ailles en enfer, je veux que tu reçoives la parole de Dieu. Et ça prend beaucoup d'amour. Ce livre, c'est l'épître de Paul à Philémon, évidemment.
C'est la plus courte épître, la plus courte des lettres de Paul. Et dans ce message-là, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est qu'on peut jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'unicité de cette lettre-là. Mais avant, on va aller chercher quelques informations. Ceux qui lisent, y a-t-il des gens qui lisent des fois des commentaires bibliques? Hein, faites juste lever la main. Là. Bon, vous lisez des commentaires bibliques. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un commentaire au début? C'est des informations sur le contexte de la lettre, de l'épître, de l'Évangile. Et ici, bien, l'auteur, évidemment, c'est l'apôtre Paul. On peut voir ça. Il faut de l'information sur celui qui a écrit la lettre. Et on voit ça au verset, vous êtes déjà dans Philémon, hein? On voit ça au verset 1, 9 et 19. Bon, ils ne sont pas là parce que vous avez cette petite lettre-là qui est sur à peu près une page et demie dans vos Bibles. Alors, vous pouvez voir qu'au verset 1, 9 et 19, c'est vraiment l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre-là. Ensuite, on regarde l'endroit et la date. C'est-à-dire que d'où la lettre a été écrite et à quelle date. Et si on compare avec beaucoup de soin là, cette lettre de Paul avec celle qu'il a écrite à l'église de Colosse, c'est-à-dire l'épître aux Colossiens, c'est clair qu'elle a été écrite à peu près en même temps et à partir du même endroit. Premièrement, tout comme la lettre aux Colossiens, l'épître à Philémon a été écrite tandis que Paul était dans les chaînes. Ça veut dire quoi, ça? Il était en prison. Donc, on voit ça dans votre épître, là, au verset 1. Il y a juste un chapitre, hein? Verset 10, verset 13, verset 23. Alors, on voit dans ces passages-là que Paul indique qu'il était vraiment en prison. Et on voit aussi dans Colossiens 4, au verset 18, ça, on l'a au tableau, Paul dit, « Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. » Ça veut dire qu'il est en prison. « Que la grâce soit avec vous. » Et ensuite, on sait que Timothée, son fidèle compagnon, est avec lui dans les deux épîtres. On voit ça dans Philippiens au verset 1. Vous pouvez le regarder. Et on voit ça aussi dans, Colossiens chapitre 1, verset 1, qui dit ceci, « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée. » Alors, on voit ici comment ceux qui étudient la Bible avec profondeur, les docteurs en théologie, regardent tous ces points-là et avec toutes sortes d'outils, les livres, on vient qu'à trouver les dates, ces choses-là, qui étaient avec. Et ensuite, vous avez dans Philémon les versets 23 et 24 et on peut les comparer à Colossiens 4, versets 10 à 14. Et dans ces versets-là, on a les noms de Épaphras, de Marc, de Aristarque, de Démas et du médecin Luc qui ont participé dans les deux lettres aux salutations aux salutations de la fin, c'est-à-dire aux gens à qui les lettres étaient écrites. Maintenant, Onésime, c'est lui qui est le sujet de l'épître à Philémon, c'était un messager par qui l'épître aux Colossiens a été envoyé. Et on voit ça dans Colossiens 4, les versets 7 à 9 que vous avez à l'écran. Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez votre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Donc, un messager, une personne qui amène des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Maintenant, si l'épître à Philémon, a été écrite environ en même temps que celle aux Colossiens ou que celui aux Colossiens et les autres épîtres de prison, il y a Éphésiens et il y a Philippiens. Donc, Colossiens, Éphésiens, Philippiens, Philémon sont des lettres qui ont été écrites lorsque Paul était en prison. Si Philémon a été écrit environ en même temps, alors cette épître-là a été écrite pendant l'emprisonnement de Paul à Rome et le temps mentionné, on peut voir ça dans Actes 28, versets 30 à 31. Hein? Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ et toute liberté, en toute liberté et sans obstacle. Donc, Paul est en prison, il est à Rome, et on voit que ce serait autour des années 61 à 63 après Jésus-Christ. Donc, Jésus est mort vers les années 30, 33, 30 quelques années après que Jésus est mort. Maintenant, comme dans une pièce de théâtre ou dans un film, il y a des personnages principaux. Et ces personnages-là, le premier personnage, c'est Philémon. C'est qui Philémon? C'était probablement un membre de l'église à Colosse. Et cet homme-là avait la qualité d'être très hospitalier. Il offrait même sa maison comme église. Puis on sait que dans ce temps-là, bien, les églises, ce n'était pas des bâtiments comme aujourd'hui. Très souvent, c'était des églises maisons. Et on va voir ça un peu plus tard. Il est aussi possible que Philémon se soit converti sous Paul. Et si on regarde au verset 19, dans la lettre au Philémon, on peut lire, « Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. » Donc, il y avait une certaine reconnaissance que Philémon devait avoir envers Paul. Ensuite, il y a Appia, ou Apphia, appelez-le comme vous voulez, mais c'était probablement la femme de Philémon. Archip, le troisième personnage, il y a beaucoup de gens qui pensent que cet homme-là pourrait être le fils de Philémon. Donc, les docteurs en théologie en viennent à cette conclusion-là. Et on voit dans Colossiens 4, 17 que c'était un ministre de l'Évangile. C'est-à-dire que, regardez ce que Paul dit ici. Au Colossiens 4, 17, et dit à Archippe, « Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. » Donc, lorsque Paul dit ça à Archippe, évidemment, c'est parce que cet homme-là est un ministre de l'Évangile. La quatrième personne, eh bien, c'est Onésime. Et c'est pour cet homme-là que Paul plaide sa cause. Onésime a probablement été l'esclave de Philémon. Il était l'esclave de Philémon. Et on voit ça au verset 16 de Philémon. Hein? Non plus comme un esclave, reçoit-les pas comme un esclave, mais comme un supérieur. Comme supérieur à un esclave, c'est-à-dire comme un frère bien-aimé de moi particulièrement et de toi plus, à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Donc, Paul demande justement à Philémon d'accueillir Onésime, qui était déjà un esclave et qui s'était probablement enfui. Donc, comme esclave, Onésime s'est enfui de chez Philémon, et on voit ça au verset 15. Et d'une façon ou d'une autre, il a voyagé à Colosse de Colosse, c'est-à-dire à Rome, avec Paul, et là, il s'est converti. Regardez bien le verset 10. « Je te prie pour mon enfant. » Souvent, on avait cette habitude-là de traiter la personne qu'on avait à conduire au Seigneur comme son enfant. « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans la chaîne, dans les chaînes onésimes. » Paul n'était pas marié, donc il n'y a pas eu d'enfant ou d'enfant illégitime. Cet enfant-là, c'est un enfant dans le Seigneur. Donc, Onésime s'est converti. Il est devenu ensuite un grand ami de Paul et une personne qui était très utile à Paul dans son ministère. Et on voit ça dans Philémon, c'est-à-dire, excusez-moi, versets 11, 12 et 13. Et en parallèle, on a Colossiens 4, verset 10, qui dit ceci. « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. » C'est le même personnage. Okay? Maintenant, pour quelle raison? Dans les commentaires, on va voir ça. Pourquoi que Paul s'est assis pour écrire une lettre de la prison de Rome où il était? Paul, il ne pensait pas avoir le droit de garder pour lui Onésime à Rome. Et là, compte tenu qu'il sait qu'il était déjà l'esclave de Philémon, il veut le renvoyer. Mais il sait que Philémon, ça n'est peut-être pas trop content de recevoir cet esclave-là qui s'est sauvé. Donc, Paul fait appel à Philémon pour qu'il puisse recevoir Onésime maintenant comme un frère en Christ. Je ne sais pas comment on réagirait, puis je me pose la question à moi-même. Si un frère qui m'aura fait du tort, est-ce que je l'accueillerai comme un frère? Mais Paul, c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il demande à Philémon. Accueille Onésime comme ton frère en Christ. Et on sait tous qu'on doit être en paix avec tous. Paul demande à Philémon de pardonner Onésime s'il avait fait de quoi de mauvais. Et évidemment, Paul dit, mets ça sur mon compte. Évidemment, le fait de s'être sauvé, est-ce que Onésime a volé Philémon? On ne sait pas. Maintenant qu'on a ces informations-là sur le contexte, moi, des fois, quand je lis un commentaire, je trouve ces informations-là, des fois, longues et plates. Pourtant, c'est intéressant. Et je ne passe pas à côté, je me force à les lire, parce qu'il y a des informations importantes. Mais là, on va aller à ce deuxième point-là. Comment l'épître est divisée? Et je ne voudrais pas prendre le temps de la lire au complet parce que je veux terminer rapidement. Mais il y a premièrement les versets 1 à 3, c'est ce qu'on appelle les salutations. Paul fait ses salutations à ceux à qui il écrit la lettre. Deuxièmement, les versets 4 à 7, ce sont des actions de grâce de Paul et prières pour Philémon. Il reconnaît son ami Philémon, il rend grâce à Dieu pour Philémon et fait des prières pour Philémon. Et ensuite, le cœur, je pourrais dire, de l'Épître, c'est les versets 8 à 21. C'est là où Paul réclame à Philémon de recevoir Onésime pour sa défense. Paul, il veut que Philémon passe l'éponge, lui pardonne complètement. Et c'est bon qu'on réfléchisse à ça. Est-ce que je ferais la même chose? Est-ce que je suis prêt à faire la même chose? Et enfin, les versets 22 à 25, il y a la conclusion, les remarques de Paul. Maintenant, le point important avant d'aller à la conclusion est ceci. Quels sont mes objectifs en étudiant cette lettre-là? Pourquoi la lettre se trouve-t-elle dans le Nouveau Testament? Une lettre qui est courte, on pourrait dire c'est peut-être insignifiant, mais non. Elle n'est pas là par hasard. Cette lettre-là, elle est là et elle doit me conduire à quels sont mes buts en étudiant cette lettre-là. Premièrement, je dois être impressionné de l'hospitalité affectueuse qui caractérise les premiers chrétiens. Comment ces gens-là étaient heureux de s'accueillir, de se recevoir les uns les autres. On voit dans Philémon 1, versets 1 et 2, là, il y a un chapitre, Philémon va jusqu'à ouvrir ses portes, les portes de sa maison, afin que l'Église puisse se réunir. Il y en a que c'est difficile de rentrer chez eux. Il faut quasiment que tu aies une lettre d'invitation. Philémon ouvrait sa porte. Gardez bien ce que Paul dit dans Romains 16, versets 3 et 5. Il dit « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens, les églises non-juives. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaphrodite, mon bien-aimé, qui a été pour Christ, les prémices de l'Asie. » 1 Corinthiens 16, verset 19. « Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. » On était contents d'ouvrir les portes de nos maisons pour accueillir le dimanche, peut-être les mercredis soirs, en tout cas, tous les fois qu'il y avait des rencontres, et la maison était ouverte. C'est ce qu'on appelle de l'hospitalité. Ensuite, une autre chose qui caractérise les chrétiens de ce temps-là, ce sont leur amour pour tous les saints. Et on voit ça dans Philémon, le verset 5. Et ensuite, j'aimerais qu'on regarde Colossiens 1, verset 4. Regardez ce que Paul dit. « Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité. » Ça, c'est charité, ça peut des fois être remplacé par le mot « amour ».« Votre amour pour tous les saints. » Et si vous lisez Colossiens 2, vous allez voir que c'est la même chose. On sent, on goûte à cet amour-là qui existait dans l'Église de Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. « Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité, encore là, l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. » Est-ce que notre amour augmente de plus en plus? des belles choses qui se voient. Il y a des progrès qui se voient. Mais oui, comme tout, il y a des choses à améliorer. Regardez, il y a comme troisième point, Philémon 7. Comment tout cela, lorsqu'on lit ça, lorsqu'on entend parler de ça, ça rafraîchit le cœur des saints. Lorsqu'on entend parler de l'amour d'une église pour tous les saints, ça rafraîchit. 1 Corinthiens 16, versets 15 à 18. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ils ont probablement implanté l'Église, là. Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Avoir de la déférence, avoir de l'amour pour ceux qui sont dans l'œuvre, les missionnaires, ceux qui travaillent à l'école du dimanche pour enseigner nos enfants, au groupe jeunesse, ceux qui sont là dans le champ. Paul dit, je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. On a eu un beau dimanche, deux dimanches passés, sur l'Église persécutée. Malheureusement, mon imprimante est brisée, mais je suis fausé de vous imprimer des petites cartes de prière. Aussitôt que ça marche, mon ordinateur est brisé, c'est-à-dire j'ai eu. Donc, on doit prendre le temps d'avoir des petites cartes ici et là ou des notes pour reconnaître le travail, pour mettre ces gens-là dans la présence du Seigneur. Parce que c'est ça que doit être l'Église. On est trop préoccupés souvent à nos propres petits bobos. Et cet exemple-là de Philémon envers Onésime, c'est un exemple qui est digne d'imitation. Ensuite, on doit apprendre à avoir du tact, c'est-à-dire de la délicatesse dans la façon de traiter les autres. Des fois, on manque de tact. Des fois, on dit des choses à pas d'allure. Paul aurait bien pu dire à Philémon, « Hey, t'as pas le choix, je t'envoie Onésime, pas un mot, accueille-le. » Il aurait pu lui donner des ordres. Mais non, il a fait appel avec douceur à son ami Philémon, à son frère. Il a présenté le sujet de son appel d'une façon progressive. Et avec beaucoup de délicatesse. Puis ceux qui ont la version Darby, dans le texte grec, le nom d'Onésime est le dernier mot dans la phrase au verset 10. Et si vous regardez le verset 10, je ne sais pas si vous avez cette version-là. Il y en a d'autres versions aussi. Paul dit, « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. » Ensuite, il refuse de contraindre Philémon de le laisser retenir Onésime à Rome, mais à la place, il le lui renvoie. Il aurait pu dire, Paul, je vais le garder, j'ai besoin d'aide, je suis en prison, j'ai besoin. Non, il le retourne. Il offre même de payer à Philémon pour tout le mal encouru par Onésime. Et ensuite, il croit en la bonté de Philémon et ils ne suspectent pas la façon dont ils réagiront. Comment souvent qu'on a des doutes, on a des... Oh, je ne sais pas s'il va être capable. Oh, il va peut-être être au commencement correct, mais après, aucun suspect. On voit ça dans Philémon 21. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Frères et sœurs, je conclue. À partir de cet exemple-là, de ce modèle-là, de Paul et de Philémon, il y a beaucoup à apprendre. On a beaucoup à apprendre en lisant et en méditant sur cette petite lettre. Premièrement, on apprend de Philémon que c'est un modèle d'hospitalité chrétienne. Les portes sont ouvertes. Tu n'as pas besoin de rendez-vous. On apprend de Paul un modèle de courtoisie chrétienne. Comment Paul, qui avait tous les droits au monde d'imposer, mais qui au lieu de ça, il est courtois, il est poli, il fait confiance à Philémon. Si on n'a jamais eu le temps d'étudier cette courte lettre, j'espère qu'à partir de ce matin, cela va nous donner l'envie d'aiguiser nos crayons, d'aiguiser notre désir de le faire dans un avenir rapproché. Attendez pas. Vous avez toujours le message sur le site web, mais prenez le temps d'écouter. Et ce que j'aimerais qu'on puisse remarquer ou retenir, méditer sur le dernier verset, qui dit ceci, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Frères et sœurs, que l'on puisse vivre d'une telle façon et permettre à la grâce du Seigneur Jésus d'être présente dans nos vies à chaque jour. Amen. Je vais inviter Marc.
Avant de faire le dernier chant, nous allons relire un passage de la Bible dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Levons-nous pour interpréter le dernier chant.
Est-ce qu'on peut nous
attendre? Oh, excusez-moi. Oui.
Excusez-moi. Pour aider au budget.
Oui, à mon père, je suis amené dans un budget.
Oui, Seigneur, juste la céleste. Nous voulons te remercier, Seigneur, toi, le Créateur de jour, pour ta présence dans nos vies, Seigneur Dieu. Nous savons, Seigneur Dieu, que nous ne sommes jamais seuls dans nos épreuves, dans nos joies, dans notre vie de tous les jours, Seigneur Dieu. Nous savons, Seigneur, que tu es toujours près de nous, Seigneur, que tu nous vois en vivant, Seigneur Dieu. Père, nous te prions de bénir tes offrandes, Seigneur Dieu, à répandre ton amour autour de nous, Seigneur Dieu. Père céleste, nous prenons toutes choses au nom de ton Fils et pour sa gloire. Amen.
Amen. Amen.